Rand se força à desserrer sa prise sur le sceptre du dragon. Depuis le début, il était sûr que Dashiva était pratiquement aussi cinglé que Loustérine. Mais d'habitude, il avait une meilleure maîtrise de lui-même, si fragile soit-elle.
Dashiva, je canalise le pouvoir depuis plus longtemps que toi. Tu sens la souillure avec plus d'intensité, c'est tout.
Impossible de faire montre de compassion. Rand ne pouvait pas se permettre de perdre la raison, et aucun des autres non plus.
Rejoins ton poste. Nous partirons bientôt.
Les éclaireurs ne devaient plus tarder. Même dans ces collines, sans véritable visibilité, 4 lieues n'étaient pas une si grande distance, surtout quand on utilisait des portails. Dashiva ne fit pas mine d'obéir. Au contraire, il ouvrit la bouche pour crier, mais la referma très vite et prit une grande inspiration.
« Je sais que tu canalises depuis longtemps, »
dit-il d'un ton glacial, pas très éloigné du mépris.
« Mais tu devrais pouvoir sentir ça. »
« Oui,
même toi, tu devrais. Fais un effort. Je déteste accoler l'adjectif étrange au nom Saïdin. Et je ne veux pas mourir ou être carbonisé parce que tu es aveugle. Regarde mon tissage de protection. Regarde-le !»
Rand dévisagea la chamane. Se mettre en avant ainsi n'était déjà pas son genre, mais exposé de colère. Intrigué, Rand regarda pour de bon le tissage. Alors que les flux auraient dû être aussi fixes et tendus que les fils d'une tapisserie, il vibrait. Le bouclier de protection était normalement solide, mais les filaments de pouvoir tremblaient. Mort n'avait-il pas dit que le Saïdin était étrange autour des Boudards et plusieurs dizaines de lieues à la ronde? Ils étaient entrés dans le périmètre en question désormais. Rand testa le Saïdin. Bien entendu, il était toujours conscient du pouvoir lorsqu'il canalisait. Toute autre option impliquait la mort ou un sort encore pire. Mais il s'était habitué à ce combat. Il luttait pour sa vie, certes, mais ce conflit était devenu aussi naturel que son existence. En fait, il était son existence. En se concentrant, il parvint à l'analyser, comme si ce lien intime n'existait pas. Un froid capable de réduire la pierre en poussière. Des flammes pouvant la faire fondre et la vaporiser. Et une corruption si puante qu'un tas de fumier aurait semblé aussi délicatement parfumé qu'un parterre de fleurs. Il y avait aussi une pulsation. Comme quelque chose qui palpitait dans son poing. Rien à voir avec ce qu'il avait senti à Shadar Logoth, quand la souillure du Saïdin s'était mise en harmonie avec le mal niché dans la cité, résonnant à l'unisson avec lui. Ici, la souillure était puissante, mais stable. C'était le Saïdin lui-même qui semblait traverser de turbulences et de courants. « Excité », avait dit Dashiva, et ce n'était pas faux. Sur la pente, un peu derrière Flynn, Mor se passa une main dans les cheveux et regarda autour de lui, mal à l'aise. Nerveux, Flynn s'agitait sur sa selle, où s'assurait que son épée coulissait bien dans son fourreau. Alors qu'il sondait le ciel en quête de créatures volantes, Narishma clignait bien trop souvent des yeux. Quant à Adley, un muscle se contractait en permanence sur une de ses joues. Des signes de nervosité chez tous ces hommes, et ça n'avait rien d'étonnant. Rand en soupira de soulagement. Il n'était pas en train de devenir fou, tout compte fait. Dashiva eut un sourire satisfait et un rien ironique.
Je n'arrive pas à croire que tu n'avais rien remarqué jusque-là.
Là, on n'était pas loin de la moquerie.
Depuis le début de cette expédition absurde, j'ai connecté à la source pratiquement jour et nuit. Ce tissage, pourtant très simple, a d'abord refusé de se former. Puis il s'est configuré tout seul, comme s'il échappait à mes mains.
À un quart de lieue à l'ouest, un portail s'ouvrit au sommet d'une colline dénudée, et un éclaireur en veste noire en émergea, tenant son cheval par la bride. Même de si loin, Rand distingua le léger scintillement du tissage avant qu'il se dissipe. Alors que l'éclaireur n'avait pas encore atteint le bas de la colline, un autre portail s'ouvrit sur la crête, puis un troisième, un quatrième, et ainsi de suite.
« Mais il a fini par se former, ton tissage, »
dit Rand, comme les portails des éclaireurs.
« Le Saïdin est difficile à contrôler, et ce n'est pas nouveau. Et il fait quand même ce que nous lui demandons.
Mais pourquoi ces difficultés particulières ? Eh bien, la réponse serait pour un autre jour. Quel dommage que le vieil érudit Eridfell ne soit plus de ce monde. Lui, il aurait peut-être su ce qui se passait.
Retourne avec les autres, Dashiva.
La chamane ouvrit de grands yeux. Il fallut que Rand répète son ordre pour qu'il relâche son tissage, fasse volter son cheval, et s'éloigne sans daigner saluer son chef.
Des problèmes, Seigneur Dragon ?
Minoda Anaïella. Aelil se contenta de regarder mornement Rand. Voyant que le premier éclaireur allait rejoindre le dragon réincarné, les autres se dirigèrent vers le nord ou le sud, afin de se joindre à une autre colonne. Pour la trouver, la bonne vieille méthode serait, à partir d'ici, plus rapide et efficace que l'ouverture de portail au hasard. Immobilisant sa monture en face de Rand, Nalaam se tapa du poing sur le cœur. N'avait-il pas une lueur affolée dans les yeux? Aucune importance. Le Saïdin continuait de faire ce qu'on lui demandait, et cela seul comptait. Nalaam fit son rapport avec une grande concision. Loin de camper à 4 lieues de là, les Séanchaniens, déjà en mouvement, n'étaient plus qu'à 2 lieues au maximum. Et ils avaient avec eux une multitude de Souldam et de Daman. Alors que Nalaam repartait, Rand donna ses ordres, et sa colonne se mit en route vers l'ouest, les défenseurs et les compagnons la flanquant, tandis que les légionnaires constituaient l'arrière-garde, juste derrière les hommes de Denarad. Une façon de rappeler aux 2 nobles dames et à leurs soldats qu'ils avaient intérêt à se tenir à carreau. Un message reçu, si on en jugeait par l'air maussade d'Aïlil et par la nervosité d'Anayella, qui regardait sans cesse autour d'elle. Avec Flynn et les autres achamans, Rand prit la tête de la colonne. Il en serait ainsi pour tous les groupes, des achamans pour frapper et des soldats pour protéger leurs arrières pendant qu'ils tuaient. Dans le ciel, le soleil était encore loin de son zénith. Le plan se déroulait exactement comme prévu. « Pour certains, » murmura Loustérine, « la folie attend son heure. Chez d'autres, elle fait lentement son chemin. » Mirage chevauchait non loin de la tête de son armée, en route vers l'est sur une piste boueuse qui traversait des collines semées d'oliviers et des forêts éparses. Non loin, mais pas à la tête. Un régiment composé pour l'essentiel de Séanchaniens le séparait des éclaireurs. Au cours de sa carrière, il avait connu bien des généraux tenant à tout prix à être en première ligne. Presque tous étaient morts. Au cours d'une bataille qu'ils avaient perdue, bien entendu. Sur une piste boueuse, une armée ne soulevait pas de colonnes de poussière, certes. Mais quand une troupe était en mouvement, la nouvelle se répandait aussi vite qu'un incendie dans les plaines de Salas. C'était ainsi, sur quelques continents qu'on se trouve. Au milieu des oliviers, Mirage avait aperçu de ci de là une brouette renversée ou un sécateur abandonné, mais les ouvriers agricoles n'étaient plus là depuis assez longtemps. Avec un peu de chance, ces fuyards éviteraient d'entrer en contact avec l'ennemi, tout comme ils avaient évité de rencontrer l'armée du capitaine général. Et si tout se passait bien, ce même ennemi, ne disposant pas de Raken, ne s'apercevrait pas qu'une force imposante fondait sur lui, avant qu'il soit trop tard, en tout cas. Mais Kennar Mirage n'aimait pas s'en remettre à la chance. Si on acceptait des sous-officiers, chargés de lui présenter des cartes ou de copier ses ordres, et les estafettes nécessaires pour les délivrer, le capitaine général chevauchait avec pour seule compagnie Abaldar Yulan, un type assez petit et frêle pour faire passer pour un géant son ongre marron, pourtant de taille ordinaire, et Lysain Jarat, une native de Séandar. Les ongles de ses auriculaires vernis en vert, Abaldar Yulan, un gaillard plein d'énergie, portait une perruque noire pour dissimuler sa calvitie. Les cheveux grisonnants, Lysain Jarat, au visage joufflu et aux yeux bleus, aurait pu passer pour l'incarnation même de la sérénité. Yulan, lui, avait dû laisser sa sérénité chez lui. En fait, le capitaine de l'air bouillait intérieurement, à cause du règlement qui lui interdisait de s'asseoir très souvent sur la selle d'un Raken. Mais aujourd'hui, il était plus nerveux que jamais. Alors que le ciel dégagé aurait été parfait pour les Raken, aucun des éclaireurs volants de Yulan ne prendrait son envol aujourd'hui. Pas ici, en tout cas. Un ordre de Surot, afin de préserver les Raken, pas assez nombreux à son goût dans l'expédition. En un sens, le calme de Lysain troublait davantage Mirage que la nervosité de Yulan. Loin d'être seulement la doyenne des Dersuldam, des chefs de groupe en quelque sorte, qui servaient sous ses ordres, c'était surtout une amie, avec laquelle il avait bu d'innombrables tasses de caf et disputé des parties de pierre acharnées. Une femme débordante de vie, pleine d'enthousiasme et toujours prête à rire aux éclats. Et voilà qu'elle se montrait aussi impassible et fermée que toutes les Souldam qu'il avait tenté d'interroger. Dans le champ de vision de Mirage, une 20aine de Daman avançait, chacune marchant à côté du cheval de sa Souldam. Se penchant sans cesse sur leur selle, les Souldam caressaient les cheveux de leur Daman ou lui tapotaient la tête. Si les Daman semblaient assez calmes, les Souldam, à l'évidence, avaient les nerfs en pelote. Et l'exubérante Lysain chevauchait en silence, comme une statue. Un Torm apparut soudain, courant à la rencontre de la colonne. Même s'il venait d'un côté et non de face, les chevaux le sentirent et hennirent de peur lorsqu'il les dépassa. Un Torm bien entraîné ne s'attaquait pas aux équidés. Sauf quand la fureur de tuer le submergeait, Une des raisons pour lesquelles ces énormes montures couvertes d'écailles ne valaient rien sur un champ de bataille. Mais les chevaux assez bien dressés pour ne pas broncher en présence de Thorm étaient aussi rares que les imposantes créatures. Mirage chargea Varek, un sous-lieutenant maigrichon, d'aller chercher le rapport du Morad Thorm. À pied, et que la lumière consume Varek s'il y perdait son Seitaer. Honneur ou non, Mirage n'allait pas gaspiller du temps à attendre que le sous-lieutenant ait réussi à maîtriser une monture acquise sur ce continent. Varek revint à la vitesse de l'éclair et fit son rapport avant même d'avoir repris son souffle.
« L'ennemi est à moins de 2 lieues à l'est, seigneur capitaine général. Il avance droit sur nous en 5 colonnes espacées d'environ 1/2 lieue. »
Eh bien, autant oublier la chance. Mais Mirage avait réfléchi à la manière d'attaquer 50 000 hommes lorsqu'on disposait en tout et pour tout de 5 000 soldats et de 50 damans. Des messagers partirent délivrer ses ordres, le plus important étant que la troupe se déploie pour éviter d'être prise en tenaille. Très vite, les régiments qui suivaient Mirage commencèrent à adopter une formation en éventail au milieu des oliveraies, les soldats flanqués de leurs damans se répartissant entre eux. Alors qu'il resserrait les pans de sa cape pour se protéger d'un vent mordant, Mirage remarqua un détail qui le glaça encore plus. Lysein aussi regardait les soldats qui s'enfonçaient entre les arbres. Et elle transpirait à grosses gouttes. Laissant le vent jouer librement avec sa cape, Berthom semblait chevaucher comme à la parade. En réalité, il sondait la forêt environnante avec une méfiance qui ne se donnait pas la peine de dissimuler. Sur les 4 compatriotes qui le suivaient, seul Doressin était vraiment compétent au grand jeu. Quant à ce chien borné de Théarien, Wairamon, il était sourd et aveugle, bien entendu. Berthom foudroya du regard le dos de ce bouffon. En grande conversation avec Gedwin, il chevauchait à l'avant-garde, et s'il avait fallu une preuve supplémentaire de son crétinisme et de sa bassesse, la manière dont il tolérait le jeune monstre aux yeux de feu aurait suffi à l'apporter. Remarquant que Kirill le regardait furtivement, Berthom écarta son cheval gris de celui du géant. Personnellement, il n'avait rien à reprocher à l'Ilianien, sauf qu'il était plus grand que lui, et qu'il détestait qu'on puisse le regarder de haut. Quand serait-il enfin de retour aux Kyriennes, où il n'aurait plus à supporter des Kyriels d'échalas pâteaux? Mais malgré sa taille, Kirill Stepanéos n'était pas un abruti. Par exemple, il avait envoyé 10 éclaireurs, alors que Wairamon s'était contenté d'un seul.
« Doressin !»
appela doucement Berthom. N'obtenant pas de réaction, il haussa le ton.
« Doressin, espèce de balourd !»
Doressin sursauta sur sa selle. Comme Berthom et les 3 autres, il avait rasé et poudré le devant de son crâne, à la mode des soldats, une allure qui faisait fureur ces derniers temps. En temps normal, Doressin aurait traité Berthom de crapaud, selon les règles du petit jeu qu'il jouait depuis l'enfance. Mais il se contenta de faire avancer son hongre pour qu'il soit à la hauteur du cheval de Berthom. Lui aussi était inquiet, et il ne le cachait pas.
« Tu as conscience que le seigneur dragon veut notre mort ?» murmura-t-il. « Par le sang et le feu !»« Tu sais, j'ai seulement écouté Colavere. Et depuis qu'il l'a tué, je sais que je suis un homme mort. »
Un moment, Berthom observa la colonne qui serpentait au milieu des collines. Derrière lui, les arbres étaient moins denses que devant. Mais il pouvait quand même dissimuler des attaquants, jusqu'à ce qu'ils vous tombent dessus. Et la dernière oliveraie se trouvait à 1/4 lieue en arrière. Comme de juste, les hommes de Wairamon avançaient en tête, ridicules dans leurs vestes à manches bouffantes rayées de blanc. En vert et rouge, de quoi éblouir un Zingaro, les Ilianiens de Kirill venaient ensuite. Les soldats de Berthom et ceux de Doressin, très convenablement vêtus de bleu foncé sous leur plastron, étaient pour l'instant hors de vue, comme la compagnie de légionnaires qu'ils précédaient. Alors qu'ils n'imposaient pas un rythme très soutenu, Wairamon s'était ébobi que les fantassins tiennent le coup. Mais l'essentiel n'était pas là. Devant Wairamon, 7 hommes en veste noire, le visage dur et les yeux glaciaux, ouvraient la marche. Et l'un d'eux portait un insigne en forme d'épée, sur son col montant.
« Si le seigneur dragon veut notre mort, il s'y prend d'une manière bien compliquée, »
répondit Berthom à Doressin.
« Et si nous étions destinés à finir en chair à pâté, il n'aurait sûrement pas envoyé avec nous cet type en noir. »
Le front plissé, Doressin voulut insister, mais Berthom lui coupa la chic.
« Il faut que j'aille parler au Théarien. »
Il détestait voir son ami d'enfance dans cet état. Encore un méfait d'Altor. Plongé dans une grande conversation, Wairamon et Gedwin n'entendirent pas que quelqu'un approchait. Très calme et très froid, Gedwin jouait nonchalamment avec ses rênes. Wairamon, lui, était rouge pivoine.
« Je me fiche de qui tu es !»
lança-t-il à la chamane.
Je ne prendrai plus de risques sans un ordre direct de... »
Les deux hommes ayant soudain pris conscience de l'arrivée de Berthomme, le Théarien se tut et foudroya le Kérinien du regard comme s'il avait envie de le tuer sans autre forme de procès. Cessant de sourire, Gedwin afficha soudain un rictus de prédateur, comme s'il rêvait lui aussi d'abattre l'importun sur le champ. Alors que l'expression de la chamane ne changea pas, le visage de Wayramon se métamorphosa. La rougeur se dissipant, il se fendit d'un sourire qu'on aurait presque pu croire chaleureux. N'était une pointe de condescendance.
« Je pensais à toi, Berthomme, »
dit-il d'un ton amical.
« Dommage qu'Altor ait étranglé ta cousine. De ses mains, d'après ce que j'ai entendu dire. Franchement, j'ai été surpris que tu répondes à sa convocation. Je l'ai vu te regarder, et je crains qu'il ait pour toi des projets plus intéressants qu'une banale strangulation. »
Berthomme ravala un soupir, et pas seulement à cause du crétinisme profond du Théarien. Beaucoup de gens tentaient d'utiliser la triste fin de Colavéré pour le manipuler. Sa cousine préférée, certes, mais dévorée par une ambition sans limite. La maison Saegan avait vraiment des droits sur le trône du soleil, mais rien qui puisse tenir la route face aux maisons Riatine ou Damodred. Du moins sans le soutien franc et massif de la Tour Blanche ou du dragon réincarné. Pourtant, Colavéré avait bien été sa cousine préférée. Mais que voulait Wayramon ? Pas ce qu'il semblait chercher en apparence. Même un Théarien au cerveau atrophié n'était pas si stupide que ça. Avant que Berthomme ait pu répondre, un cavalier jaillit des arbres sur le côté de la piste et fonça vers ses compagnons et lui. Quand l'homme immobilisa sa monture devant eux, forçant la pauvre bête à planter ses sabots dans le sol, Berthomme reconnut un de ses propres soldats. Édenté, le visage couvert de cicatrices, il s'agissait d'un certain Doyle, originaire des domaines Colchain.
« Seigneur Berthomme !»
haleta-t-il après un rapide salut.
J'ai 2000 tarabonnés à mes trousses. Et il y a avec eux des femmes qui arborent des éclairs sur leurs robes.
Oh, ces trousses,
marmonna Wayramon.
Nous verrons ce que dira mon éclaireur lorsqu'il reviendra. Je ne vois rien qui...
Un martèlement de sabots et des cris de guerre couvrirent la fin de la phrase du bouffon. Jaillissant des arbres, des lanciers fondaient sur Berthomme et son petit groupe. Wayramon éclata de rire.
« Tue qui tu veux et où tu veux, Gedwin !»
lança-t-il en dégainant son épée.
« Moi, je reste fidèle aux méthodes classiques !»
Le Théarien alla se placer à la tête de ses hommes et poussa son cri de guerre.
« San Iago ! Pour San Iago et la gloire !»
Sa maison est sa seule véritable passion. À sa place, quelqu'un d'autre aurait aussi mentionné son pays, mais... Se lançant lui aussi au galop, Berthomme donna de la voix.
« Saegan et Kérien !»
Pas besoin de faire des arabesques avec son épée pour l'instant.
« Saegan et Kérien !»
Que cherchait donc Wayramon un peu plus tôt ? Quand des roulements de tonnerre retentirent, Berthomme, perplexe, leva les yeux au ciel. Il y avait aussi peu de nuages qu'avant. Mais Doyle, ou était-ce Daline, avait parlé de femmes avec des éclairs sur leurs robes. Lorsque les tarabonnets, portant un voile de maille, furent presque sur lui, Berthomme oublia les manigances de cet abruti de Théarien.
« Saegan et Kérien !»
cria-t-il, alors que des éclairs commençaient à pleuvoir du ciel, éventrant le sol. Un vent de mort se leva. Dans la forêt, si dense qu'il n'y faisait jamais vraiment jour, des cavaliers s'affrontaient sauvagement. Ailleurs, la nuit devait tomber, mais de toute façon, ça ne changerait rien. Venant de toutes parts, des explosions couvraient le vacarme des armes, les cris des hommes et les hennissements des chevaux. Parfois, le sol tremblait, comme si la fin du monde approchait. À d'autres moments, quand un calme relatif revenait, des braillements montaient des rangs ennemis.
« Den Luchenos ! Pour Den Luchenos et les abeilles ! Annaline ! Ralliez-vous à Annaline ! Aileen ! Aileen ! Pour le haut seigneur Sunamon ! »
Ce cri fut le seul que Varek comprit à peu près. Cela dit, les indigènes qui prétendaient avoir droit à un tel titre, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, n'avaient guère de chance d'être un jour invités à prêter le serment. Varek dégagea son épée de l'aisselle du soldat qu'il venait de frapper juste au-dessus de son plastron. Un adversaire dangereux, ce petit homme au teint pâle, jusqu'au moment où il avait commis l'erreur de lever un peu trop son épée. Alors que le cheval bai du mort s'enfuyait, disparaissant dans les broussailles, Varek éprouva l'ombre d'un regret. Cet équidé semblait bien meilleur que le canasson à chaussettes blanches qu'il était obligé de monter. L'ombre d'un regret seulement, parce qu'il avait d'autres soucis en tête. Par exemple, essayait de voir ce que lui cachaient les arbres aux branches lestées de lianes et les grands buissons dont les feuilles ressemblaient étrangement à des plumes. Les échos de la bataille montaient de toutes les directions, mais au début, Varek ne vit pas le moindre mouvement. Puis une dizaine de lanciers altariens apparurent à moins de 50 pas de lui. Se tenant bien droit sur leurs selles, ils regardaient autour d'eux avec l'attention requise. Mais la manière dont ils bavardaient entre eux, comme s'ils se promenaient, justifiait largement les rayures rouges sur leurs plastrons. Varek s'apprêta à rejoindre les cavaliers. Une escorte, même composée de ces idiots indisciplinés, lui permettrait peut-être de délivrer son message très urgent au général d'étendard Chan Mai. Des éclairs noirs jaillirent des arbres, vidant toutes les selles des chevaux altariens. Sans leur maître, les équidés s'éparpillèrent, et il ne resta bientôt plus qu'une dizaine de cadavres, gisant sur un tapis de feuilles mortes, chacun transpercé par au moins un carreau d'arbalète. Plus un mouvement. Malgré lui, Varek frissonna. Au début, les ennemis en veste bleue avaient semblé faciles à écraser, d'autant plus qu'ils n'étaient même pas soutenus par des piquiers. Mais ils se cachaient derrière les arbres ou dans des ravines, ne se montrant jamais, et frappaient quand on s'y attendait le moins. Et il y avait encore pire qu'eux. Après la piteuse retraite vers les bateaux, à Falm, Varek aurait juré qu'il venait de voir le plus désolant spectacle de sa vie. L'armée toujours victorieuse, en déroute. Moins d'une heure plus tôt, il avait assisté à un désastre encore plus terrible. 100 Tarabonais face à un seul homme en veste noire. Oui, 100 contre 1. Et les lanciers avaient été taillés en pièces. Littéralement, les hommes et les chevaux explosant plus vite qu'ils pouvaient les compter. Et la tuerie avait continué alors que les Tarabonais tentaient de fuir, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul en vue. Bien entendu, un homme n'était pas moins mort quand le sol s'ouvrait sous ses pieds, mais les Damans laissaient au moins quelques restes à enterrer. Le dernier homme à qui Varek avait parlé, un vétéran séanchanien qui commandait une centaine de piquiers d'Amadicia, lui avait dit que Chiang Mai se trouvait dans cette direction. Devant lui, Varek repéra soudain des chevaux attachés à des arbres, leurs cavaliers à pied à côté d'eux. Avec un peu de chance, ces hommes l'aideraient à s'orienter. Ensuite, il leur dirait ce qu'il pensait des chiens qui se planquaient pendant une bataille. Quand il déboula parmi ces hommes, il oublia la deuxième partie de ses projets. Car il venait de trouver ce qu'il cherchait, mais pas ce qu'il avait espéré découvrir. Non loin des chevaux, une dizaine de corps méchamment brûlés gisaient sur le sol. Et l'un d'eux, au visage miraculeusement épargné, était le général Chan Mai. Quant aux soldats encore debout, plusieurs étant blessés, c'étaient des Tarabonais, des Altariens et des Amadiciens. Un peu à l'écart, une soldame au visage fermé consolait une damane en pleurs.
« Que s'est-il passé ici ?»
demanda Varek. Les Achamans n'étaient pas du genre à laisser des survivants, sauf si la soldame les y avait contraints.
« De la folie, seigneur !»
répondit un grand Tarabonais en écartant l'homme qui appliquait un baume sur son bras gauche brûlé. Malgré une très mauvaise brûlure, l'homme ne grimaçait pas. Son voile de maille, attaché à son casque par un seul côté, révélait son visage dur, barré par une épaisse moustache grisonnante, et du défi brillait dans son regard.
« Des Ilianiens nous sont tombés dessus sans crier gare. Au début, tout s'est bien passé, parce qu'il n'y avait pas de veste noire avec eux. Le seigneur Chan Mai nous a lancé à l'attaque, et la femme canalisait des éclairs. Alors que les Ilianiens se débandaient, la foudre a commencé à s'abattre aussi sur nous. »
Le soldat se tut et jeta un regard noir à la soldame. Celle-ci se redressa d'un bond et brandit le poing. Puis elle avança vers le Tarabonais, autant que le lui permit le bracelet de la dame, attaché à son autre poignet. Recroquevillée sur elle-même, la damane sanglotait convulsivement.
« Je ne laisserai pas ce chien déverser sa bave sur ma zakaille. C'est une bonne damane. Oui, une bonne damane. »
Varek fit un geste apaisant à la femme. Il avait vu des soldats châtier si durement leur damane qu'elle en hurlait de douleur, au point parfois de rester handicapée après avoir été punie, mais montait cependant sur leurs argots, dès que quelqu'un, y compris un membre du sang, osait la critiquer. Ce Tarabonais n'était bien entendu pas du sang, et la soldame, à la voir trembler, avait des envies de meurtre. Si le type avait prononcé à haute voix son accusation, au lieu de se contenter d'un regard, elle l'aurait à coup sûr abattu sur le champ.
« Tes prières pour les morts devront attendre, »
dit Varek. Ce qu'il envisageait de faire risquait de lui valoir une triste fin entre les mains des chercheurs s'il échouait. Mais à part la soldame, il ne restait plus un séanchanien vivant dans ce secteur.
« Je prends le commandement. Nous allons nous replier et puis partir vers le sud. »«
Nous replier ?»
explosa le Tarabonais.
« Il nous faudra des jours pour rompre le contact. Les Ilianiens se battent comme des blaireaux acculés, et les Kyrianiens comme des furets en cage. Les Théariens sont moins redoutables qu'on le dit. mais il y a une bonne dizaine d'achamans avec eux. Dans ces temps pour Gamini, je ne sais même plus où sont les trois quarts de mes hommes. »
Stimulés par le grand type, les autres soldats protestèrent aussi. Varek les ignora et ne daigna même pas demander ce qu'était un embrouillamini. Pour se faire une idée, il suffisait de regarder la forêt dense et étouffante autour de lui, d'où montaient les bruits de la bataille, ponctués par les explosions des éclairs.
« Tu vas rassembler tes hommes et commencer à battre en retraite !»
dit Varek, dominant les lamentations des soldats.
« Pas trop vite, parce que le mouvement doit être coordonné !»
Les ordres de Mirage à Chiang Mai parlaient de la plus grande vitesse possible. Varek les avait mémorisés, au cas où il arriverait malheur à la copie, rangés dans ses sacoches de sel. Mais faire montre de précipitation en de pareilles circonstances revenait à laisser en arrière la moitié des hommes, livrés sur un plateau d'argent à l'ennemi.
« En route ! Vous vous battez pour l'impératrice ! Puisse-t-elle vivre jamais ?»
Cette harangue était en général destinée aux Bleus, mais pour une raison inconnue, elle fouetta les sangs des Tarabonais. S'inclinant brièvement, mais néanmoins bien bas, ils se ruèrent vers leurs chevaux. Bizarre. À présent, c'était à Varek de trouver une unité séanchanienne, commandée par quelqu'un de plus gradé que lui, de préférence. Histoire de se décharger de toute responsabilité. Agenouillée, la sous-dame caressait les cheveux de sa damane en lui parlant tout bas.
« Fais en sorte qu'elle se remette !»
dit Varek. La plus grande vitesse possible. Ce n'était pas le genre de mirage, ça. De plus, Varek avait cru voir de l'anxiété dans les yeux de son chef. Qu'est-ce qui pouvait bien inquiéter Kenar Mirage ?
Pour gagner le sud, nous allons dépendre de vous, les Souldames.
En entendant ces mots, la Souldame devint blanche comme un linge. Juste à la lisière des arbres, Bachéré tenait par la bride son cheval bai, qui lui flanquait de petits coups de naseau dans l'épaule. Plissant le front face au spectacle qui s'offrait à lui, il serrait dans sa main libre les pans de sa cape, afin que le vent ne les fasse pas voler. Davantage pour que le mouvement ne le trahisse pas, que pour se protéger du froid, même s'il était gelé jusqu'à la moelle des os. Au Saldaea, ce vent aurait été une douce brise printanière, mais les mois passés au sud avaient ramolli le maréchal. Brillant entre des nuages qui dérivaient très rapidement, le soleil approchait de son zénith, et Bachéré l'avait en plein dans les yeux. Commencer une bataille face à l'ouest ne signifiait pas qu'on finirait dans la même position. Devant Bachéré, dans une grande prairie, un troupeau de chèvres blanches et noires broutait nonchalamment, se fichant comme d'une guigne de la bataille en cours. Bien sûr, ici, tout était calme, pour l'instant en tout cas. Et au milieu des arbres, qu'il s'agisse d'une forêt, d'une oliveraie ou d'un banal bosquet, il arrivait qu'on ne voit pas l'ennemi avant de lui tomber dessus, éclaireur ou pas éclaireur.
« Si nous devons traverser, »
marmonna Gayam, en massant son crâne chauve.
« Faisons-le. Nous perdons du temps au nom de la lumière. »
Amondrid referma brusquement la bouche. À l'évidence, ce Kerienien en visage rond se préparait à dire exactement la même chose. Mais pour qu'il avoue être d'accord avec un Théarien, il faudrait attendre que les chevaux montent aux arbres. Jeordwin Semaris ricana. Pour dissimuler sa mâchoire étroite qui le faisait ressembler à un coin de bûcheron, ce type aurait dû se laisser pousser la barbe.
« Il faut contourner, j'insiste, »
marmonna-t-il.
« J'ai perdu assez d'hommes face à ces maudites damanes et... »
Il se tut et coula un regard inquiet à Rothschild. Les dents serrées, jouant avec le dragon épinglé à son col, le jeune Achaman se tenait à l'écart. À l'évidence, il se demandait si tout ça valait la peine d'être vécu. Son arrogance oubliée, il ne cachait plus son inquiétude, en tout cas. Tirant sa monture par la bride, Bachéré rejoignit le jeune homme et l'entraîna un peu plus loin des autres. Pour ça, il fut obligé de le pousser, tant l'achaman fit preuve de mauvaise volonté. Mais Bachéré ne se laissa pas impressionner, même si Rothschild le dominait d'une bonne tête.
« La prochaine fois, pourrais-je compter sur toi et sur tes hommes ? Sans retard ?»
Quand il s'agissait de combattre des damanes, Rothschild et ses camarades mettaient de plus en plus de temps à se mobiliser.
« Je sais ce que je fais, Bachéré. Nous n'en tuons pas assez à ton goût. Pourtant, d'après ce que je vois, il n'en reste pas beaucoup. »
Bachéré acquiesça lentement. Non qu'il fût entièrement d'accord avec tout. Si on regardait bien, il restait des soldats ennemis absolument partout. Mais beaucoup avaient succombé. C'était indéniable. Pour cette bataille, il s'était inspiré de ce qu'il avait lu sur les guerres des Trollocs, durant lesquelles les forces de la lumière avaient été régulièrement en infériorité numérique. Frapper les flancs et filer. Et quand l'ennemi lançait la poursuite, lui faire face sur le site choisi à l'avance, où les légionnaires attendaient avec leurs arbalètes. Et là, taillé dans le tas, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau temps de filer, à moins que les autres s'enfuient les premiers. En ce jour, Bachéré avait forcé des Tarabonais, des Amadiciens et des Altariens à détaler comme des lapins. Plus quelques Séanchaniens, dans leur étrange armure. Dans cette bataille, il avait vu plus d'adversaires morts que lors des neiges de sang. Mais s'il disposait des Achamans, le camp d'en face avait ses Damans. Un bon tiers des cavaliers du Saldaïa y avait laissé leur peau. En tout, près de la moitié de ses hommes avaient péri. Et il restait encore des Séanchaniens partout, avec leurs maudites Souldam, leurs Tarabonais, leurs Amadiciens et leurs Altariens. Dès qu'on en tuait un, deux venaient le remplacer. À force, les Achamans devenaient moins tranchants. Sautant en selle, Bachéré alla rejoindre Jeordwin et les autres.
« On contourne !»
lança-t-il, ignorant aussi bien le hochement de tête satisfait de Jeordwin que le regard noir de Gayam et d'Amondrid.
« Tripler les éclaireurs ! J'entends aller vite, mais sans croiser une Daman !»
Personne n'émit d'objection. Rothschild avait déjà rassemblé autour de lui les cinq autres achamans. Parmi eux, quatre ne portaient pas le moindre insigne. Ce matin, il y en avait deux de plus, également des soldats. Mais les hommes en noir n'étaient pas les seuls à savoir tuer. Sur ce point, les Damans n'avaient pas de leçons à recevoir. Rothschild semblait se disputer avec ses hommes. Alors qu'il était rouge comme une pivoine et gesticulait, eux restaient de marbre, aussi entêtés que des statues. Bachéré espéra que Rothschild les dissuaderait de déserter. La journée était assez désastreuse pour qu'on ne lâche pas en plus des hommes pareils dans la nature. Sous le crachin, Rand foudroya du regard les gros nuages noirs qui s'accumulaient dans le ciel, obscurcissant le soleil, qui était encore à mi-chemin de l'horizon occidental. Du crachin pour l'instant, mais ça se gâterait très bientôt. Agacé, le jeune homme recommença à étudier le terrain devant lui. Quand il baissa la tête, la couronne d'épée lui titilla les tempes. Avec le pouvoir en lui, ce qu'il voyait semblait aussi net et précis qu'une carte, quel que soit le temps. Là, il s'agissait d'une série de collines, certaines couvertes de broussailles ou d'oliviers, et d'autres presque dénudées. Au milieu d'un taillis, Rand crut distinguer un mouvement, puis un autre dans une oliveraie, sur une autre colline, à environ une demi-lieue de la première. Mais croire n'était pas suffisant. Derrière Rand, sur des lieux, le paysage était semé d'ennemis morts. Et d'ennemis, eux, aussi. Mais ils s'étaient tenus loin de tout endroit où tombaient des soldats et des damans, refusant de voir leur visage. Parmi ces hommes, presque tous pensaient que c'était parce qu'ils haïssaient ces femmes, qui tuaient tant de ses alliés. Taïd Aïchar renacla et fit quelques pas sur le sommet de la colline, avant que Rand le calme en combinant une main ferme et une forte pression des genoux. Il n'aurait plus manqué qu'une Souldam le repère. Et c'était possible, car les arbres qui l'entouraient, distraitement, Rand s'avisa qu'il ne connaissait aucune de ces espèces, étaient bien trop espacés pour faire une bonne cachette. Prudent, le jeune homme glissa son sceptre dans une de ses sacoches de sel, histoire d'avoir les deux mains libres si le hongre décidait de le mettre à l'épreuve. S'il était capable de soulager le cheval de sa fatigue avec le pouvoir, il ne pouvait en aucun cas le forcer à obéir. Mais comment le hongre avait-il encore l'énergie de piaffer? Alors que le Saïdin circulait en lui, Rand sentait son corps de très loin. Mais il avait parfaitement conscience de son épuisement. En partie, c'était dû à la quantité de Saïdin qu'il avait manié durant la journée. Mais il y avait aussi l'intensité du combat qu'il avait dû livrer pour que le pouvoir lui obéisse. En toutes circonstances, il fallait lutter contre le Saïdin pour en tirer quelque chose. Mais il n'avait jamais dû forcer à ce point. Sur son flanc gauche, les blessures inguérissables le mettaient à la torture. La plus ancienne semblait vouloir traverser le vide, et la plus récente évoquait un incendie dévorant.
« C'était un accident, Seigneur Dragon !»
s'écria soudain Hadley.
« Je le jure !»«
Tais-toi et ouvre l'œil !»
répondit Rand, impitoyable. Hadley baissa les yeux sur ses mains, puis il écarta une mèche de cheveux trempés de son front, et hocha enfin humblement la tête. Aujourd'hui et en ce lieu, contrôler le Saïdin était plus difficile que jamais. Et relâcher son emprise pouvait être mortel. Hadley l'avait fait, des hommes mourant carbonisés à cause de son erreur. Pas seulement les Amadiciens qu'il visait, mais une trentaine de soldats d'Aïlil, et presque autant d'Anagella. Sans ce faux pas, Hadley aurait été avec Mor et les compagnons, à un quart de lieue environ dans la forêt. Narishma et Hopwil, eux, étaient au nord avec les défenseurs. Mais Rand voulait garder un œil sur Hadley. D'autres accidents s'étaient-ils produits sans qu'il les voie? Bon sang! Il ne pouvait pas surveiller tout le monde en même temps. Flynn avait le teint grisâtre d'un cadavre et Dashiva, pour une fois, était concentré à l'extrême, au point d'en transpirer. Bien entendu, il marmonnait entre ses dents, si bas que Rand ne comprenait pas ce qu'il disait, même alors que le pouvoir amplifiait ses sens. mais il voyait bien que la chamane s'épongeait sans cesse le front avec un mouchoir qui devenait de plus en plus crasseux au fil des heures. Ces deux-là ne devaient pas avoir commis d'erreur. Quoi qu'il en soit, tout comme Adelaide, ils ne canalisaient pas le pouvoir pour l'instant. Et pour le faire, il leur faudrait attendre l'ordre de Rand.
« C'est terminé ?»
demanda Anayella. Oubliant sa surveillance, Rand fit pivoter Taïdaïchar pour se placer face à la femme. Surprise, elle recula sur sa selle, la capuche de sa cape imperméable richement brodée tombant sur ses épaules. Sur sa joue, un muscle se contracta, et quelque chose passa dans son regard. De la peur ou de la haine. Près d'elle, Aïlil jouait calmement avec ses rênes.
« Que peux-tu demander de plus ?»
demanda Anayella d'un ton à peine poli.
« Si on mesure la grandeur d'une victoire au nombre d'ennemis morts, tu as d'ores et déjà de quoi entrer dans l'histoire. »«
Je veux rejeter les Sanchaniens à la mer !»
cria Rand. Oui, il devait en finir avec eux maintenant, quand il en avait l'occasion. Parce qu'il ne pouvait pas affronter en même temps les Sanchaniens, les rejeter, et la lumière seule savait qui d'autre.
« Je l'ai déjà fait, et je le referai !»
« Cette fois, le corps de Valère est caché dans ta poche, » railla Loustérine.
Rand le voit muettement aux gémonies.
« Il y a quelqu'un dans la vallée !»
annonça Flynn.
« Venant de l'ouest. Un cavalier qui se dirige vers nous. »
Rand fit de nouveau volter son cheval. Des légionnaires étaient postés sur les versants de la colline. Si bien dissimulés qu'il apercevait rarement une veste bleue. Mais aucun n'avait de cheval. Qui pouvait bien approcher ? C'était Bachéré, tout simplement, son cheval bai caracolant sans peine sur le versant. Son casque accroché au pommeau de sa selle, le maréchal semblait épuisé. Quand il eut rejoint Rand, il entra tout de suite dans le vif du sujet.
Nous en avons terminé. L'art de la guerre, c'est aussi savoir quand se retirer. Il est temps pour nous de partir. Pas loin d'ici, j'ai laissé 500 de mes cavaliers sur le carreau, plus 2 de vos achamans.
J'en ai envoyé 3 autres avec la mission d'aller dire à Semaradrid, à Grégorine et à Wairamon de se replier sur votre position. J'imagine qu'ils ne sont pas en meilleur état que moi. Et pour vous, à combien se monte la note du boucher ?
Rand éluda la question. Ses pertes étaient supérieures à celles de Bachéré. Près de 200 morts de plus.
Vous n'aviez aucun droit de donner des ordres aux autres commandants. Tant qu'il reste une demi-douzaine d'achamans, ou même moi seul, c'est suffisant pour continuer. Bachéré, je veux trouver le reste de l'armée ennemie et l'anéantir. Pas question que les Sanchaniens ajoutent l'Altara au Tarabon et à la Madicia.
Bachéré lissa sa moustache et eut un sourire ironique.
Vous voulez trouver le reste de l'armée ennemie ? Regardez autour de vous. Il y a 10 voire 15 000 hommes assez près de nous pour que nous puissions les voir. S'il n'y avait pas tous ces arbres. Pour venir jusqu'à vous, et traverser leurs lignes, jouant au dé avec le ténébreux. Au bas mot, il y a 100 damanes avec ses forces, et d'autres arriveront avec les renforts. Apparemment, le général adverse a décidé de se focaliser sur vous. Être taverne, ce n'est pas toujours une sinécure.
S'ils sont là, murmura Rand en sondant les collines. La pluie se faisait plus forte. Où donc avait-il repéré un mouvement ? Si seulement il avait pu être moins fatigué, mais le Saïdine le torturait. De nouveau, il toucha le paquet, glissé dans la sangle de son étrier. Puis sa main s'en écarta, comme de sa propre volonté. 10 ou 15 000. Quand Semaradrid serait là, puis Grégorine et Wairamon, et surtout les achamans.
S'ils sont là, c'est là que je les taillerai en pièces, ma chérie, en les frappant de tous les côtés à la fois, selon le plan d'origine.
Le front plissé, Bachéré fit avancer son cheval, jusqu'à ce que ses genoux touchent presque ceux de Rand. Flynn s'écarta discrètement, mais Adelaide, trop concentré sur sa tâche, ne s'aperçut de rien, et Dashiva ouvrit grand les yeux pour ne rien rater.
« Vous n'avez pas les idées claires, » souffla Bachéré. Au début, c'était un bon plan, mais leur général a l'esprit vif. Il a déployé ses troupes afin de ne plus nous offrir une cible facile. Constatant qu'il essuyait quand même de lourdes pertes, il est en train de les regrouper. Vous ne les prendrez pas par surprise. Au contraire, il nous attend. Achaman ou pas Achaman, si nous allons au contact, personne n'en sortira vivant. Et les vautours auront droit à un fabuleux festin.
Personne ne va impunément au contact contre le dragon réincarné,
dit Rand.
Les rejetés pourraient le dire à ce général, qui qu'il soit. Pas vrai, Flynn et Dashiva ?
Flynn hocha vaguement la tête, et Dashiva tressaillit.
Vous pensez que je ne peux pas le prendre par surprise, maréchal? Regardez!
Rand s'empara du long paquet et le déballa. Alors que des gouttes de pluie s'écrasaient sur une épée qui semblait faite de cristal, des cris de surprise montèrent tout autour de lui.
Voyons comment il réagira en voyant Kalandor entre les mains du dragon réincarné!
Rand cala la lame translucide dans le creux de son bras. Puis il fit avancer Taïdaïchar de quelques pas. Sans véritable raison, car il n'aurait pas une meilleure vue depuis sa nouvelle position. Cependant, quelque chose rampa le long de la surface extérieure du vide, une sorte de toile d'araignée noire. De la peur. La dernière fois qu'il avait utilisé Kalandor, c'était pour tenter de ramener des morts à la vie. À l'époque, il croyait pouvoir tout faire avec cette arme. Comme un fou qui se croit capable de voler. Cela dit, il était le dragon réincarné. Donc, il pouvait bel et bien tout faire. Ne l'avait-il pas prouvé 100 fois? Il puisa du pouvoir à travers Kalandor. Le Saïdin sembla se ruer dans l'arme avant même qu'il se soit connecté à la source par son intermédiaire. Du pommeau à la pointe, l'épée de cristal émit une lumière blanche. Jusque-là, Rand avait eu le sentiment d'être habité par le pouvoir. À présent, il en absorbait plus que 10 hommes en même temps, ou peut-être 100. Il n'aurait su le dire. Les feux du soleil brûlaient dans sa tête, et le froid des hivers de tous les âges s'insinua dans son cœur. La souillure qui se déversa dans son âme puait comme tout l'état de fumier du monde réuni. Le Saïdin continua à tenter de le tuer, en brûlant, gelant ou dispersant toutes les fibres de son être. Mais il lutta, réussit à vivre une seconde de plus, puis une autre, et encore une autre. Oui, il pouvait vraiment tout faire. Il aurait aimé éclater de rire. Naguère, alors qu'il brandissait Kalandor, il en avait fait une arme capable de traquer les créatures des ténèbres dans toute la pierre de Théar, et de les foudroyer à distance, qu'elles soient en train de fuir ou de se cacher. À coup sûr, il allait découvrir quelque chose dans ce genre, contre ses ennemis du jour. Mais quand il appela Lusterine, il n'obtint pas de réponse, comme si le spectre était effrayé par la douleur du Saïdin. Alors que Kalandor brillait dans sa main, il ne se souvenait pas de l'avoir brandi, Rand regarda les collines où se tairaient ses ennemis. La pluie étant plus dense et des nuages noirs occultant le soleil, le paysage était gris désormais. Qu'avait-il donc pensé face à Eagan Padros ?
« C'est moi, la tempête »,
murmura-t-il. À ses oreilles, ce fut un rugissement. Rand canalisa le pouvoir. Au-dessus de sa tête, les nuages entrèrent en ébullition. Alors qu'ils étaient jusque-là noirs comme la suie, ils devinrent plus obscurs que le cœur de la nuit. Comme souvent, malgré les leçons d'Asmodéan, Rand n'aurait su dire ce qu'il tissait. Malgré sa terreur, Lusterine guidait-il sa main ? Des flux de Saïdin zébrèrent le ciel, l'air, l'eau, le feu, l'esprit. Une pluie d'éclairs tomba du ciel, frappant le sol à perte de vue. Devant Rand, les collines furent éventrées, s'écroulant parfois comme une fourmilière dans laquelle on tire un coup de pied. Des bosquets s'embrasèrent, puis ce fut le tour des oliveraies. Quelque chose frappa durement Rand. Avant même d'avoir compris qu'il était tombé, il se releva. Sa couronne gisait à ses pieds, mais il tenait toujours Kalandor. Très vaguement, il vit que son cheval était lui aussi en train de se relever. Ainsi, ses chiens osèrent riposter. Levant son épée au-dessus de sa tête, il défia ses ennemis de la voix.
« Venez à moi, si vous l'osez! Je suis la tempête! Shaitan, je t'attends! Le dragon réincarné t'attend !»
Un millier d'éclairs s'abattirent des nuages. Un nouveau choc, suivi d'une autre chute. Cette fois, Rand lâcha Kalandor, qui continua à briller à quelques pouces de sa main tendue. Dans le ciel, les éclairs se déchaînaient. Soudain, Rand s'aperçut que Bachéret pesait de tout son poids sur lui et le secouait par les épaules. C'était sûrement lui qui l'avait fait tomber.
« Arrêtez !»
cria le maréchal, le visage en sang.
« Vous allez nous tuer tous !»
Rand tourna la tête et comprit en un clin d'œil. Des éclairs tombaient absolument partout. Sur le versant de la colline, où se tenaient Denarad et ses hommes, des soldats et des chevaux criaient de douleur. Anaïella et Aïlil avaient mis pied à terre, et elles tentaient de calmer leur monture, qui se cabrait et essayait de leur arracher les rênes des mains. Non loin d'un cheval mort aux pattes déjà raides, Flynn se penchait sur quelqu'un. Rand se coupa du Saïdin, qui continua pourtant un moment à se déverser en lui. Tandis que les éclairs continuaient à pleuvoir, le torrent de pouvoir, en lui, se fit moins impétueux, puis se tarit lentement. Alors vint le malaise désormais familier. Deux Kalandor brillant sur le sol, devant Rand, il eut l'impression que la terre tournait comme une toupie. Puis les éclairs cessèrent de tomber, et le silence revint, uniquement troublé par le bruit de la pluie, et les cris qui montaient de l'autre versant de la colline. Bachéré s'étant écarté, Rand se releva péniblement et cligna des yeux, alors que sa vision redevenait normale. La main sur la poignée de son épée, le maréchal regardait le jeune homme comme s'il avait été un lion enragé. Voyant qu'il était debout, Anaïella s'évanouit, lâchant les rênes de son cheval qui en profita pour s'enfuir. Toujours occupé à lutter contre sa monture, Aïlil avait d'autres soucis que de regarder le jeune homme. N'étant pas sûr qu'il aurait le courage de la ramasser, Rand laissa son épée où elle était. Pour le moment, en tout cas. Flynn se redressa et secoua la tête, alors que le dragon réincarné approchait de lui. Jonan Hadley gisait sur le sol, ses yeux morts écarquillés d'horreur fixant le ciel sans le voir. Jonan Hadley, une des premières recrues de la tournoire, et ses cris montant de l'autre versant. Combien de morts? Parmi les défenseurs, parmi les compagnons, et... Un rideau de pluie occultait les collines où les Sanjaniens se tapissaient. En frappant à l'aveugle, Rand les avait-ils tous massacrés? Ou attendaient-ils encore là-bas, avec leur daman, histoire de voir combien de ses propres hommes il leur ferait la grâce de tuer?
« Postez des sentinelles là où vous le jugerez utile, » dit Rand à Bachéré. « Quand Grégorine et les autres nous auront rejoints, nous ouvrirons des portails pour rejoindre les charrettes le plus vite possible. »
Bachéré acquiesça et s'éloigna sous la pluie battante.
« J'ai perdu, » pensa Rand. « Je suis le dragon réincarné, mais pour la première fois, j'ai connu la défaite. »
Son ironie mordante oubliée, Loustérine explosa de colère.
« Moi, je n'ai jamais été vaincu. Je suis le seigneur du matin. Personne ne peut me battre. »
Rand s'assit dans la boue, ramassa sa couronne et regarda Kalandor, sans rien faire pour empêcher Loustérine de tempêter. Reconnaissant à la pluie de noyer ses larmes, Abaldar Yulan pleurait. Tôt ou tard, quelqu'un devrait donner l'ordre. Et au bout du compte, il faudrait que quelqu'un s'excuse auprès de l'impératrice, puisse-t-elle vivre à jamais, et peut-être de sourote. Mais ce n'était pas pour ça qu'il pleurait, ni même à cause d'un camarade tombé au combat. Arrachant une manche à sa veste, Yulan la posa sur les yeux déjà voilés de mirage, afin de les protéger de la pluie.
« Donnez l'ordre de nous replier !»
dit-il. Autour de lui, les hommes sursautèrent. Pour la deuxième fois sur ce continent, l'armée toujours victorieuse venait de subir une déroute. Yulan aurait parié qu'il n'était pas le seul à pleurer.